France Culture, avec philosophie, Géraldine Hillman.
Et un générique accéléré, vous l'avez entendu ce matin pour notre troisième épisode dans la série sur le présent de cette semaine, Modernité, Vitesse, Tyrannie du présent. Le problème de la modernité est-il la technique et ses pas de géants qui changent notre environnement à toute vitesse? Pas si sûr. Pourquoi le train puis l'avion qui raccourcissent la durée des voyages ne nous ont pas simplement permis d'avoir plus de temps libre? Nous avons réagi à leur invention par plus de voyages, tout comme nous envoyons plus de courriers, maintenant que le mail nous permet de traiter le courrier très vite. En somme, loin d'utiliser la technique et sa vitesse pour notre repos, nous contemplons d'innombrables possibles qui sont logés là à chaque instant, et ces possibles deviennent volontiers des injonctions. Voyons, j'ai 3 heures de temps libre, il y a tant de choses que je pourrais faire. Si je ne les fais pas, je me sens fainéant. Et puis l'embarras du choix m'angoisse aussi. C'est cela, la tyrannie du présent, si typiquement moderne, dont nous parlons ce matin. Elle fait de nous ce que le penseur allemand contemporain Hartmut Rosa appelle des jongleurs, ivres des possibles dans leur emploi du temps, mais frôlant l'épuisement. Nous allons dans cette émission creuser les idées de Hartmut Rosa, mais nous rappellerons qu'il n'est pas le premier à avoir réfléchi à tout cela. Plusieurs œuvres ce matin vont nous aider à réfléchir à cette tyrannie moderne du présent liée à une accélération de 1000 choses autour de nous. Bonjour Anne Kupiec.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite de sociologie de l'Université Paris Diderot. Et par sociologie, vous entendez depuis longtemps une curiosité tous azimuts ainsi qu'une intense réflexion théorique que vous menez, notamment en compagnie des penseurs de l'école de Francfort, Adorno, Marcuse, Horkheimer et bien d'autres. Vous êtes une spécialiste aujourd'hui, une très bonne connaisseuse de la théorie critique. Bonjour Jérôme Lèbre.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris. La vitesse moderne vous intéresse depuis longtemps. Vous avez publié en 2011 chez Hermann un livre intitulé « Vitesse » au pluriel et en 2018 chez Desclés de Brouwer un éloge de l'immobilité.
Je travaillais où avant ?
Paris, rive droite.
C'est quoi ça ? 3-4 étoiles ?
Un 3.
T'as aucune expérience des palaces ?
Non.
Et faut que t'aies une montre, hein ? Pas de portable, hein ?
Je retrouvais une.
La télé est permise ?
Non, pas du tout. Mais là, j'ai vraiment besoin de savoir ce qui se passe dans les transports aujourd'hui.
Julie ?
Oui ?
Faut terminer la Churchill, le client vient d'arriver.
Vas-y, tu commences à aspirer les coussins et moi, je vais chercher du renfort. Et filles, le client est en bas, vous faites la salle de bain ?
D'accord.
Sylvie ?
Oui ?
Tu peux monter un bouquet pour la 208, s'il te plaît ?
Ok, et la Jeep ?
Je m'en occupe, tu viens contrôler ?
Non, commence sans moi. Tu fais attention, hein, c'est un client platine.
Moi, j'essaie.
Ça a été avec la nouvelle ?
Ouais.
C'est pressé, là ?
Un peu.
On m'a encore demandé tes évaluations aujourd'hui.
Ah, merde. Mercredi, jeudi au plus tard.
Tu joues avec le feu, Julie.
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Alex. Je ne suis pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message et je vous rappelle dès que possible.
Salut, c'est encore moi. J'ai toujours pas reçu ton virement du mois et là, je suis dans une merde pas possible. Donc, est-ce que tu pourrais t'en occuper aujourd'hui, s'il te plaît ? Et rappelle-moi parce que j'ai vraiment besoin de te parler. Ciao.
Alors, moi, ça...
Non, trop cheap. Ça, il va le casser en 2 secondes. Non, mais laissez tomber. Vous avez des cartons d'invitation pour les anniversaires ?
Oui, à la caisse.
Ok, merci. Excusez-moi, vous savez pas où ils vont, là, ces cars ?
Non, je suis désolée. Y a pas d'infos.
T'as mangé quoi ce soir ? Il y a des cartes de substitution pour la ligne P.
Il y a un train qui va partir, là.
Quelle voie ?
Voie 14.
Vous venez d'entendre un extrait du film À plein temps, réalisé par Éric Gravel en 2022. La musique aide, mais on sent bien l'essoufflement du personnage tel qu'il est. Julie, elle s'appelle Julie, et elle essaye d'exploiter le présent au maximum dans une vie un peu folle où il y a de multiples activités. C'est une jongleuse, semble-t-il, au sens de Hartmut Rosa. Vous semble-t-elle, Jérôme Lèbre, correspondre assez bien ou à ce qui vous intéresse dans la vitesse moderne ?
Oui, en effet, c'est une expérience qu'on connaît toutes et tous, d'être complètement débordé, d'avoir quantité de tâches qu'il faut accomplir exactement en même temps, de plus pouvoir les organiser. Il y a quantité d'ouvrages, qui d'ailleurs de manière très pratique, hein, essaient d'expliquer aux gens comment organiser leur temps. C'est sûr que c'est un phénomène social très important, qu'il ne faut pas non plus considérer comme absolument homogène ni universel. Hein. Oui. Il y a aussi quantité de gens qui sont à l'écart de cela, quelquefois volontairement, très souvent involontairement. Je pense à ceux qui n'ont pas d'emploi, par exemple. C'est un phénomène à replacer dans un contexte qui est à la fois social, historique, géographique, oui, et donc à étudier de manière relative par rapport à d'autres.
Alors, un penseur avant Hartmut Rosa dont nous allons parler, qui est un penseur vivant, hein, Hartmut Rosa aujourd'hui, il y a eu dans la deuxième moitié du XXe siècle plusieurs auteurs qui ont parlé de cela, Paul Virilio, Jacques Ellul. Ça fait du bien de rappeler peut-être que Rosa n'est pas tout seul aujourd'hui sur ce sujet de l'accélération. Anne Kupiec, est-ce que vous pensez que, bon, j'ai cité Ellul, Virilio, on pourrait ajouter Ivan Illich, on pourrait peut-être d'ailleurs en ajouter d'autres. Est-ce que vous pensez que c'est une ligne importante, critique, de réflexion sur notre modernité, Anne Kupiec?
Alors, le premier livre traduit en France d'Hartmut Rosa, Accélération, lorsqu'on le lit, on a l'impression que ce phénomène d'accélération est relativement nouveau. Et ce que l'on peut, en tous les cas, ce que j'ai regretté, c'est que précisément il ne fasse que peu de références à des auteurs plus anciens qui avait travaillé, et il s'en défendrait sans doute, sur la vitesse, où Virilio vient d'être cité, ou Ellul, avec les effets du développement technique. Mais je pense qu'on pourrait même remonter davantage, oui, en arrière. On peut imaginer non plus des références propres au XXe siècle, mais même au XIXe siècle. Il me semble que Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, oui, est précisément un texte où l'accélération des modes de transport permet à Phileas Fogg de gagner son pari. Plus en arrière encore, nombreux sont des auteurs au début du 19e siècle qui perçoivent quelque chose de nouveau dans le rapport au temps, dans le changement du temps, de la perception du temps, une sorte d'accélération. Et un compatriote, pourrait-on dire, d'Hartmut Rosa, je pense à Heinrich Heine qui était présent à Paris. Mais on peut remonter aussi à des événements du XVIIIe siècle, analysés certes au XIXe siècle, avec Michelet au moment de la Révolution française. Oui. On pourrait même remonter encore plus loin avec Shakespeare, qui évoque dans certaines pièces une accélération nécessaire du temps.
Alors, ça soulève une question importante. Est-ce lié à la modernité ? Même Shakespeare, hein, c'est le début, oui, d'une certaine, absolument, modernité. Il y a une deuxième question, est-ce un problème objectif, hein, dont il faut à ce moment-là décrire les données, ou est-ce un problème de perception? Au fond, c'est cette double interrogation qui va nous intéresser ce matin. Nous parlerons de Hartmut Rosa. Juste pour les auditeurs, préciser que Hartmut Rosa a écrit un livre qui s'appelle « Accélération, une critique sociale du temps », dont la première édition allemande date de 2005. C'est publié en français désormais à La Découverte. Il a publié aussi un petit livre en 2010, d'abord en anglais, qui s'appelle « Aliénation et accélération vers une théorie critique de la modernité tardive » et qui lui aussi est traduit à La Découverte. Mais il y a tout ce dont vient de parler Anne Kupiec, antérieur à Rosa. Jérôme Lèbre, sur toutes ces questions un peu agglutinées dans notre problème, que dites-vous? C'est une perception? C'est la modernité? De quoi s'agit-il, cette vitesse-là que beaucoup d'auteurs ont notée?
Oui, je pense que, en fait, on peut faire remonter la problématique de la vitesse très loin. Hein. Et de ce point de vue-là, il peut y avoir des conceptions de vitesse qui sont extrêmement rapides dès l'Antiquité. Quand Épicure dit que l'atome va à une vitesse qui est l'équivalent de celle de la pensée, ça veut dire qu'en fait, voilà, quand on imagine qu'on va d'un point A à un point B, on le fait quasi instantanément. Et donc, c'est une vitesse quasi absolue. Et pour lui, en fait, la lumière des astres donc, nous parvient en un instant aussi. Hein, ce qui fait que pour lui, la vitesse de la lumière, qui pour lui est inférieure à celle des atomes, elle est quand même bien supérieure aux 300 000 km par seconde qui font que des phénomènes astronomiques lointains, aujourd'hui, prennent des années à nous parvenir. Donc, l'idée d'une conception d'une très grande vitesse, sans qu'elle soit dramatisée, d'ailleurs, puisque elle est en quelque sorte maîtrisée au sens où c'est la vitesse de la pensée. Hein. Cette conception, elle est très ancienne. C'est d'un livre d'un historien qui, à côté de ça, un très bon livre, mais je dirais sauf le titre. C'est Studeni qui a écrit L'invention de la vitesse. Et il date cette invention de la vitesse du début du XVIIIe siècle. Non. La vitesse a toujours été déjà inventée. Je dirais ce qui a été inventé. Et Rosa n'en parle pas parce qu'il met entre parenthèses les questions de la temporalité en sciences physiques, c'est bien dommage. Ce qui a été inventé, c'est la notion d'accélération au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on se pose quantité de problèmes de vitesse, d'adaptation à la vitesse aussi. C'est la question de l'agitation, dont on reviendra peut-être avec Sénèque. Dès l'Antiquité, hein, de le fait que le temps passe très vite, trop vite, etc. Ce qu'il y a de nouveau dans la modernité, c'est qu'il y a une loi qui fait que la vitesse augmente et qu'on peut calculer cette augmentation. Voilà, il faut pas.
Ça veut dire une loi.
La loi de l'accélération de la chute des corps. Voilà, qui fait que.
Donc on sait que en physique, la vitesse de la chute des corps, il y a une accélération. Voilà. Modo, on lance une pierre à plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de mètres, ça suffit de notre sol, elle va beaucoup plus vite, évidemment, au moment où elle atteint le sol qu'au début. Et voilà. Même, beaucoup de gens volent assez longtemps sans éprouver de l'attraction. D'accord, mais ça, c'est l'accélération, c'est physique. Mais là, nous parlons de choses sociologiques. Il y a un point, Anne Kupiec, parce que dans le phénomène de l'accélération, Rosa met beaucoup de choses. Il met le progrès technique, on va y revenir, mais il met aussi le simple fait qu'il y ait plus de changement social, parce que les traditions sont contestées à la modernité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire plusieurs mariages dans une vie, divorcer, et donc avoir plusieurs sortes de vies privées à l'intérieur d'une vie. Ça peut changer. Nos vies professionnelles aussi changent. On n'est plus déterminé par une tradition de famille ou de milieu qui pèse sur nous. On l'est peut-être encore un peu, mais pas autant qu'avant. Donc, l'un des éléments qu'évoque Rosa, mais ça, c'est pas neuf du tout, c'est que tout simplement, la fin des traditions ou leur essoufflement ou leur contestation, tout cela fait qu'il y a du changement. Beaucoup plus dans nos vies qu'il n'y en avait dans la vie d'un homme au Moyen-Âge ou d'une femme au Moyen-Âge.
Oui, sans doute, parce qu'il y a des dispositifs techniques, comme il le dit, qui conduisent à cette accélération. Mais il me semble qu'il n'y a pas que cela. Et moi, ce que j'ai regretté en le lisant, c'est qu'il ne fasse pas référence à d'autres phénomènes. Le phénomène qui avait été qualifié de liquidité par Zygmunt Bauman, oui. Un sociologue.
Deuxième moitié du XXe siècle.
Deuxième
aussi.
Moitié du XXe siècle.
Qu'est-ce que c'est la vie liquide ?
La vie liquide, pour Bauman, auquel ne se réfère quasiment pas Rosa, c'est de montrer que, au cours du XXe siècle, des repères, j'allais dire traditionnels, se sont effrités et ont conduit à une sorte de liquidité qui concernerait à la fois les rapports sociaux, mais également les rapports que les individus ont avec les objets, voire même avec les arts en général.
Ce sont pourtant des choses solides. Les objets, presque par définition, ne sont pas liquides.
Il y a toute une analyse très intéressante de Bauman qui s'intéresse notamment aux formes contemporaines au moment où il écrit de l'art, où il montre que les formes artistiques ont évolué. Ils ne portent pas de jugement. Ils constatent qu'il y a, et sans référence à l'accélération, et qu'ils constatent qu'il y a une transformation des rapports entre les êtres humains, des êtres humains aux choses, et qu'il y a là, me semble-t-il, matière à réflexion. En même temps, comme en fait le propos de Rosa dans Accélération est très peu historicisé, il me semble que si on avait interrogé, ce qui n'est évidemment pas possible, des êtres humains de la deuxième moitié du 19e siècle, du début du 20e siècle, eux aussi auraient perçu une accélération.
Et même, j'ai parlé du changement social qui n'est qu'un des trois éléments de
l'accélération. Ce changement social,
c'est évident que dans les guerres, des révolutions,
il est très net au 19e siècle, au 20e siècle, à des moments différents.
Alors que le liquide de Bauman, c'est plus contemporain. Alors ça veut dire que ça rejoint la question de la perception. Nos amitiés, par exemple, et nos amours sont plus mouvants. On peut changer de milieu amical plus souvent dans une vie. Et est-ce que c'est cela le côté liquide de nos existences ?
C'est exactement ce que note Bauman, qui a vécu très longtemps en Pologne. Il est né polonais et a quitté la Pologne parce qu'il était juif et qu'il a dû quitter la Pologne à la fin des années 60 pour s'installer en Angleterre. Mm-hmm. Donc il vit en Angleterre et c'est là qu'il écrit tous ses derniers ouvrages puisqu'il est mort là-bas. Et il me semble qu'il y a là matière à réflexion davantage qu'à la suite d'une lecture d'accélération.
De Rosa. J'ai bien compris que Rosa, là, ce matin, allait être assez fermement critiquée. Je n'ai rien contre. Mais je voudrais quand même qu'on dise ce qu'il y a dans le livre. D'autant que c'est souvent une synthèse, il faut bien le dire, de choses qui ont été dites avant. C'est pas forcément un reproche. Ça nous permet de savoir tout ce qui a été évoqué. Donc, il y a le problème du changement social, fin des traditions. Il y a le problème du progrès technique. Mais il y a surtout un problème de rythme de vie. Et c'est autre chose que le progrès technique. Voilà ce que je vous propose, Jérôme Lèbre, puisque c'est quand même un de vos sujets favoris, cette accélération du rythme de vie. On va écouter un texte d'Armut Rosa, et je vous laisserai toute liberté pour nous l'analyser et voir ce que vous apportez vous-même dans vos réflexions sur ce même sujet. On écoute un extrait de « Aliénation et accélération » de Armut Rosa.
La facette la plus oppressante et étonnante de l'accélération sociale est peut-être la spectaculaire et épidémique famine temporelle des sociétés modernes occidentales. Dans la modernité, les acteurs sociaux ressentent de manière croissante qu'ils manquent de temps et qu'ils l'épuisent. C'est comme si le temps était perçu comme une matière première consommable, telle que le pétrole, et qu'il deviendrait par conséquent de plus en plus rare et cher. L'accélération technique devrait logiquement impliquer une augmentation du temps libre, qui à son tour ralentirait le rythme de vie ou au moins éliminerait ou réduirait la famine temporelle. Puisque l'accélération technique signifie que moins de temps est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche donnée, le temps devrait devenir abondant. Or, pensez simplement aux conséquences de l'introduction de la technologie du courrier électronique sur notre budget de temps. Il est correct de supposer qu'écrire un courrier électronique est deux fois plus rapide qu'écrire une lettre classique. Considérez ensuite qu'en 1990, vous écriviez et receviez en moyenne 10 lettres par journée de travail, dont le traitement vous prenait 2 heures. Avec l'introduction de la nouvelle technologie, vous n'avez plus besoin que d'une heure pour votre correspondance quotidienne, si le nombre de messages envoyés et reçus demeure le même. Vous avez donc gagné une heure de temps libre que vous pouvez utiliser pour autre chose. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Je parie que non. Je soupçonne qu'aujourd'hui, vous lisez et écrivez 40, 50 ou même 70 messages par jour. Il se trouve que la même chose s'est produite il y a un siècle avec l'introduction de la voiture, et plus tard avec l'invention de la machine à laver. Bien sûr, nous aurions gagné d'importantes ressources de temps libre si nous avions parcouru les mêmes distances qu'auparavant et lavé notre linge à la même fréquence. Mais ce n'est pas le cas.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Modernité, vitesse, tyrannie du présent, nous parlons de cela ce matin dans le cadre de notre série sur la notion de présent. Je suis en compagnie d'Anne Cupiec et de Jérôme Lèbre. Jérôme Lèbre, dans ce texte, Hartmut Rosa, penseur contemporain, dit qu'au fond ce n'est pas le progrès technique qui est le responsable de cette famine temporelle, pour parler comme Rosa justement, que nous éprouvons. Normalement le progrès technique aurait dû nous libérer plein de temps et qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, alors c'est un paradoxe qui est bien connu, hein, qui est en fait celui de la productivité. Hein, c'est-à-dire qu'en effet, qui dit progrès technique dit qu'on va plus vite, une partie du travail est pris en relais par des machines. Donc, normalement, l'augmentation de la productivité devrait faire qu'on accomplit la même tâche dans un temps plus réduit, ce qui nous libère du temps et donc aurait dû amener... corrélativement, eh bien, une baisse, tout simplement, du temps de travail, hein, pour tout le monde.
Et donc, ce n'est pas ce qui s'est passé.
C'est notre rapport au
temps qui est structurellement pathologique, c'est-à-dire qu'en fait, nous n'aimons pas le temps libre. Nous le remplissons, puisque ces tâches peuvent être faites beaucoup plus vite et beaucoup plus aisément qu'il y a deux siècles. Eh bien, nous écrivons encore plus de courriers, nous lavons encore plus souvent notre linge, nous faisons des machines, nous travaillons davantage, nous prenons encore plus les transports, puisque c'est si simple. Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre rapport au temps ?
Oui. Alors en fait, face à cette... Pourquoi finalement on n'a pas profité de cette augmentation extraordinaire de la productivité, qui correspond aussi à une certaine période, hein, parce qu'ensuite, la productivité a commencé à franchement baisser à partir des années 70-80. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en a pas profité ? Alors, il y a différents types d'explications. Il peut y avoir une explication de type politique, qui tient au fait qu'on a préféré finalement continuer à augmenter la production parce que ça voulait dire croissance et ça voulait dire richesse au moins de quelques-uns au détriment des autres. Oui. C'est pas cette voie-là que prend Rosa. Je dirais pas non plus que le problème c'est que l'on n'aime pas avoir du temps, ce qui serait à mon avis trop psychologique.
Oui.
Et donc la solution de Rosa, elle consiste à dire que c'est avant tout une question culturelle.
Et c'est-à-dire c'est la question contrairement... culturelle. Pardon, voilà. Vous mettez le capitalisme comme une culture
En fait, on a les deux interprétations possibles. Hein. C'est la fameuse différence entre Marx et Weber. C'est-à-dire où on part du principe que voilà, il y a un moteur économique sur lequel on peut vraiment se fonder et qui devrait impliquer un certain type de société. Où on dit, oui, mais le problème, c'est qu'en fait, ce qui est le moteur de ce moteur économique, eh ben, c'est la culture. Donc ça, c'est la perspective de Weber qui monte à propos du protestantisme, hein, que c'est justement un certain rapport au temps et à la vie qui est à l'origine même du développement du capitalisme. Donc Rosa, finalement, héritant comme beaucoup de cette perspective-là, hein, qui est tout à fait pertinente, finalement distingue trois temps, trois modes d'accélération. L'accélération technique, l'accélération des rythmes de vie et l'accélération du temps social, des changements sociaux.
Ça, on a déjà parlé tout à l'heure de cela.
Et en fait, il les met dans une position de spirale, mais c'est pas une spirale qui commence n'importe où. Elle commence dans l'accélération du rythme de vie.
C'est le point le plus essentiel, en fait, voilà. Les trois aspects.
Voilà,
progrès technique, changement social, que nous avons évoqué avec la fin des traditions dans leur continuisme, et rythme de vie. C'est le problème du rythme de vie qui est le principal sujet d'Hartmut Rosa.
Exactement. Et en plus de ça, il y a cette spirale, mais alors bizarrement, hein, le moteur de cette spirale est extérieur, c'est-à-dire elle est auto-alimentée, mais en fait, ensuite Rosa dit oui, mais il y a des moteurs extérieurs. Il y a le moteur économique pour l'accélération technique, il y a un moteur systémique pour les changements sociaux, et il y a le moteur culturel pour les changements de mode de vie. Et donc, si on voit le schéma dans l'ensemble, on s'aperçoit qu'en effet, c'est bien la culture qui est... Alors que c'est vrai que généralement, c'est presque un paradoxe finalement, hein, que c'est la culture qui a un petit peu enclenché tout ça.
On veut cette vitesse.
Voilà, c'est-à-dire qu'on serait... ce serait ça la modernité, cette incapacité à profiter de son temps, ce sentiment de manque de temps. Alors, sa fin, c'est que...
Bien sûr, et vous intervenez parce que vous avez écrit au moins deux livres sur ces questions. Je vois des intersections avec Rosa, par exemple... Vous notez comme lui que le paradoxe de la vitesse moderne, c'est que
eh bien, nous, on est assez immobile. Dans les trains, dans les avions, on est assez immobile. Dans les mails, on est assez immobile. Donc, il y a un paradoxe d'immobilité spatiale dans une accélération du temps perçu. Bon. Et puis, vous dites aussi que c'est le concept de pétrification chez Rosa. Et puis, vous dites aussi, comme lui, je retrouve ça dans vos analyses, que il y a presque une sorte d'ennui, ce qui est totalement paradoxal, parce que même des tâches extraordinairement variées, nous sommes tout le temps dans cette famine temporelle, nous faisons plein de choses, et finalement nous avons l'impression de faire tout le temps la même chose, c'est-à-dire un truc frénétique, angoissant, et donc vous dites, il y a de l'ennui, paradoxalement, y compris dans nos distractions rapides, la pluralité d'activités génère un certain ennui. Vous dites ces deux choses, non ?
Alors, oui, je vous ai déjà parlé d'une forme d'insatisfaction collective, on en parlait tout à l'heure avec Anne avant le début de l'émission, mais les livres sont faits pour laisser insatisfaits, parce que comme ça on a il nous reste à penser, sinon ce serait catastrophique. L'insatisfaction collective, elle tient au fait que cette culture de l'accélération, on aurait bien aimé que Rosa nous l'explique à la fois historiquement et géographiquement, c'est-à-dire les choses ont l'air de tomber un petit peu de rien parce qu'il parle de la modernité sans parler d'histoire, en fait. Il n'y a pas vraiment de chronologie, il n'y a pas de comparaison avec les périodes antérieures où existaient d'autres modes de manque de temps, hein, puisque les stoïciens, toutes les sagesses antiques, c'est ça, ou c'est pareil aussi dans le taoïsme, hein, le reproche que le fait, les gens ont l'impression en permanence de manquer de temps et par là même manquent leur vie, ils savent pas profiter du temps présent, ont pas le bon rapport au temps. Bon, voilà. Donc c'est pas ça qui est nouveau. Et donc en effet, là où Rosa est intéressante, c'est que c'est de nouveau, c'est qu'il y a quantité de phénomènes à la fois techniques, structurels, etc., qui vont donner une version moderne de ce manque de temps. Mais voilà, il sort pas de rien. Bon, alors justement, ce qui concerne une insatisfaction qui est plus individuelle, du moins comment j'en suis, j'ai essayé de
vous qui travaillez voilà, sur ce même sujet.
C'est la démonstration de Rosa. Elle a un côté assez monolithique, c'est-à-dire que il ne veut pas dire que tout accélère, parce que justement, il faut différencier ces trois champs de l'accélération, hein, technique, rythme de vie, société. Bon. Donc, ça crée un fonctionnement social qui marche d'une certaine manière dans son livre, mais, comme dans beaucoup de livres trop démonstratifs, ça marche tellement bien que ça écrase quand même pas mal de choses au passage. Et en particulier, le fait que systématiquement, Rosa juge comme secondaire des phénomènes d'inertie que provoque l'accélération elle-même. J'en avais cité un tout à l'heure, c'est le chômage, parce que justement, cette augmentation de productivité qui aurait dû tous nous libérer du temps, hein, ce que pensaient les marxistes, et pas seulement, hein, on pourrait être à travailler tous 2 ou 3 heures par jour avec un revenu suffisant et utiliser le reste de notre journée à du temps libre, des activités de vraie praxis qui est leur fin en elle-même, des activités intellectuelles, affectives ou comme le disent les gens dans le sondage, être avec sa famille, hein, ne serait-ce que ça. Bon, au lieu de ça, on se retrouve avec des gens qui sont débordés, qui sont une élite, c'est-à-dire que le point de vue de Rosa est quand même le point de vue d'une élite. Des gens qui sont débordés, qui sont pas si nombreux que ça, parce qu'à côté de ça, il y a tous ceux qui aimeraient bien travailler plus, au sens où ils sont à temps partiel et qu'ils n'ont pas assez d'argent. Sans parler de ceux qui sont au chômage.
Et vous pensez que les inerties contraintes dont vous parlez ne produisent pas ce que Rosa appelle la contraction du présent? C'est une expression qu'il emploie et qui est tout à fait opportune à citer, puisque c'est notre sujet de la semaine, le présent. Cette contraction du présent, ces injonctions... Il faut que j'aille chercher de l'emploi, il faut que j'aille rendre des comptes à France Travail, il faut que je me maintienne en forme, il faut que j'aille voir un psy parce que c'est dur pour moi. Il faut. Peut-être que ça vaut pour tout le monde, même ceux qui sont en apparence dans une inertie.
Oui, c'est-à-dire il y a une forme de colonisation du temps libre aussi. Hein. On s'en aperçoit dans nos vacances, on a un agenda aussi chargé que quand on travaille. Et c'est vrai que même pour les chômeurs, en fait, on les oblige. Hein. En fait, on est dans une société qui ne supporte pas j'allais dire l'inactivité, mais c'est un problème d'inactivité. Elle supporte pas que les gens travaillent pas, en fait.
Voilà. Et ça, ils le ressentent très bien.
Centré sur le travail.
Le repos Habermas, est mal vu. Voilà. Alors, ce qui nous amène, on va reprendre ce problème. N'y a-t-il pas d'étranges rapports à la lenteur? Je dis pas qu'il n'y a pas de lenteur, mais elle est mal perçue. Anne Cupier, que je voudrais quand même qu'on parle, vous avez évoqué ce 19e siècle.
Au fond, nous sommes toujours dans le vieux problème de Paul Lafargue, éloge de la paresse, écrivait-il dans la deuxième moitié du 19e siècle. Éloge, pourquoi ? Parce que la paresse, c'est vraiment le diable de la modernité. Le système, qu'il soit capitalistique, postmoderne, nos catégories de pensée n'arrivent pas à faire droit à cette valeur. Ne rien faire.
Alors, le terme paresse a une connotation morale qui est sans doute un frein à la réflexion. On pourrait plutôt parler d'oisiveté, voire de loisir au singulier, dans le sens, j'allais dire, extrêmement classique de la scolée. Et à partir de là, on constate, les travaux de Jacques Rancière l'ont montré à l'envi, qu'au XIXe siècle, au moment même où la révolution industrielle va accroître le rythme de travail et rendre les conditions de travail beaucoup plus difficiles, que la famine temporelle dont parle Rosa est déjà présente. Qu'on se souvienne de tous ceux qui n'ont pas de temps, qui disent ne pas avoir de temps et à juste titre, parce que la journée de travail dure 10 heures, 12 heures, ne plus dormir pour être de véritables êtres humains et consacrer leur temps libre à autre chose que à la production. Donc, il me semble que les travaux de Rancière le montrent, que ce soit la nuit des prolétaires, la parole ouvrière, ou même le titre qu'il donne à un recueil d'articles contemporains, et tant pis pour les gens fatigués, pour bien montrer qu'il y a toujours eu, et dès le 19e siècle, et sans doute avant, des possibilités de trouver des lignes de fuite, des lignes obliques pour précisément avoir un rapport au temps et pour le présent de nos aïeux qui soit autre et qui permette d'être de véritables êtres humains.
Donc la question du repos ou du ne rien faire est problématique depuis longtemps. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Jérôme Lèbre, parce que voilà ce que j'ai compris de votre livre sur l'immobilité. Mais peut-être que j'ai pas bien compris. J'ai compris ceci. Il me semble que vous dites l'immobilité, c'est paradoxalement le symptôme de cette vitesse permanente. C'est-à-dire, nous sommes immobiles au bureau, mais nous avons l'impression de perdre, de ne pas avoir assez de temps dans les trains, dans les avions. Il y a une immobilité du personnage moderne, de l'homme en pleine vitesse, mais en fait, il est immobile. Mais vous dites aussi, donc c'est une forme d'aliénation, je pense que vous le pensez comme Rosa, mais par ailleurs, c'est la ressource. L'immobilité, dites-vous, c'est très fécond. C'est notre façon de résister aussi. L'immobilité doit être, c'est elle qu'il faut réévaluer. Il faut plus faire un éloge de la paresse, qui était une provocation, hein, comme mot, de repos. Il faut faire un éloge de l'immobilité et en faire quelque chose pour le retourner contre la vitesse. Est-ce que j'ai bien compris ?
Ah, vous avez parfaitement
compris. Bon, alors maintenant, vous allez nous expliquer un peu plus, parce que c'est compliqué.
Je peux que déployer, je ne peux pas vous contredire, je peux que déployer. Oui, c'est-à-dire que beaucoup ont remarqué, en particulier Virilio, que l'augmentation de la vitesse, l'accélération, provoquait des phénomènes d'inertie, voire d'immobilisation. C'est-à-dire que c'est dans une voiture qui va vite qu'il faut avoir une ceinture de sécurité. C'est à partir du moment où il y a eu des TGV qu'il fallait que tout le monde ait une place assise. En fait, donc la vitesse technique nous fige et nous prive de nos propres capacités de mouvement. C'est la même chose pour la communication. Plus il y a des moyens d'obtenir des images rapidement, des images, des sons, radio, télévision, etc. Et plus il suffit de rester chez soi pour que le monde vienne à nous, ce qu'a déjà marqué Gunther Anders. Le monde vient à nous, donc on n'a plus à aller vers lui. Bon. Donc, c'est quelque chose que Virilio avait pris très au sérieux, que finalement, s'il y a une catastrophe de l'accélération, elle est dans le fait qu'elle nous fige. De ce point de vue-là, Rosa a une perspective étrange, parce qu'il dit d'un côté, ça c'est secondaire, ce qui compte, c'est l'accélération. Tous les phénomènes d'inertie sont secondaires. Mais dans la conclusion, il dit, bon, comment ça va finir, ça ? Peut-être par une pétrification définitive. Donc, voilà, bon.
Et vous dites, c'est fabuleux, c'est formidable, l'inertie. Faisons quelque chose de l'inertie, mais quoi ?
Oui, bah en fait, la question que je me pose, celle de... On cherche des solutions. Et en effet, la paresse, l'oisiveté... Alors, la paresse, ça paraît quelque chose d'assez négatif. Donc, on cherche quelque chose de plus actif, qui soit de l'ordre de l'otium, de la scolaire, c'est-à-dire justement des activités libres qui ne sont pas du travail, comme il pouvait y en avoir dans l'Antiquité. Alors, en même temps, il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà, il y a ce problème-là.
Qu'est-ce qu'on va faire de notre immobilité ?
Et il y a une autre question, c'est que la plupart du temps, et vous le voyez, ça revient très souvent dans les titres de journaux, etc., la solution qui est proposée, c'est de ralentir. Ralentir, c'est une solution réactive, c'est-à-dire que le problème, ce serait qu'on va trop vite, donc la solution immédiate, c'est de ralentir. Et ouais, je dis, c'est pas assez radical, ce qui est la solution est dans l'immobilité. Et en plus, à la différence du ralentissement, elle est déjà obtenue puisque la vitesse ne cesse de nous immobiliser. Donc il s'agit de faire quelque chose de l'immobilisation à laquelle nous sommes contraints.
Quoi ?
Et alors, quoi ? Ben voilà, et alors... Ouais. Est-ce que je vais véritablement vous répondre ? Parce qu'en fait, ma thèse de ce point de vue-là, c'est que dans une grande partie de l'histoire, en Occident et en Orient, il y a eu des techniques d'utilisation du temps, et justement de ce temps qui pouvait être sous forme de mouvement et d'immobilité, qui est des techniques extrêmement précises, choses qu'on apprenait. Des techniques de méditation, des techniques de prière, etc. etc. On trouve ça dans toutes les sagesses antiques. Le yoga, c'est ça aussi, hein, des postures et des postures d'équilibre, etc. etc. Ce qui m'intéresse, moi, dans notre Occident, c'est que, focalisant la technique sur le travail, il a oublié les techniques de vie. Et en particulier, par exemple, on demande aux enfants de se tenir tranquilles en classe. On le demande toujours, on considère que c'est essentiel qu'ils soient aussi immobiles. Mais on n'a jamais appris à se tenir tranquille. Ça a juste été une injonction, une contrainte, mais pas une technique. Et donc, en fait, ce qui me semble, il faudrait arriver à retrouver, parce que l'immobilité est une contrainte. Elle peut même être une contrainte forte, la paralysie, la prison, etc. etc. Mais comment on trouve dans cette contrainte un ressort d'émancipation, y compris, sans doute, par l'invention de nouvelles techniques. Mais là, de ce point de vue-là, voilà, je me laisse le travail aussi à tout le monde.
J'ai évidemment plein de questions. Est-ce que ça veut dire qu'il faut savoir apprendre à dire non, non aux injonctions permanentes ? On est immobile, mais on n'est pas corvéable à merci pour faire 70 mails par jour. Savoir être immobile, mais sans regarder son écran. Savoir dire non au patron, non aussi à certaines formes chronophages d'une amitié envahissante, mais qui n'est pas une attention véritable. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui, c'est en fait une sorte de revalorisation du statique, et en particulier dans les luttes sociales et dans les luttes collectives. Parce que, je dirais, il y a une grande période où on parlait entièrement en termes de flux. Hein, il fallait le modèle de la guérilla, etc. Ce qui compte, c'est la mobilité, etc., etc. Ce qui a été tout à fait récupéré, repris sans aucune difficulté aussi par le maintien de l'ordre, hein, qui est lui-même de plus en plus mobile, et plus il est mobile, plus il est violent. Hein, c'est le principe des braves ou des autres brigades motorisées, etc. Et la mobilité, en fait, ça se gère très bien par le pouvoir. Parce que tout ce qui est mobile est repérable.
L'immobilité, c'est une force que le pouvoir n'aime pas beaucoup.
Voilà. Dès que face à des gens immobiles, pour le pouvoir, la première
injonction, c'est circuler. Le sit-in où on ne peut pas déloger les gens, voilà. C'est les agriculteurs qui bloquent.
Exactement.
C'est ça que vous donnez comme exemple.
C'est les gilets jaunes qui disent « on ne bougera plus ». C'est-à-dire autant une manif mobile qui dure de telle heure à telle heure, qui va d'un point à un autre, est facilement contrôlable par la police et pose aucun problème. Elle gêne pas parce qu'elle libère derrière la circulation qu'elle empêche devant. Donc, elle est dynamique et finalement, elle ne gêne pas. Autant quand on occupe un lieu, et c'est le principe de l'occupation des places, des grèves, des sit-in, etc., etc., on est dans une sorte de suspension de la finalité qui fait qu'il n'y a plus de contrôle possible du point de vue de l'ordre. Donc, ça les inquiète bien plus.
Donc, c'est le rapport à l'espace qu'il faudrait travailler, c'est ce que vous semblez dire, alors qu'on est obsédé par le problème du temps. Je voudrais vous demander, Anne Cupiec, si cette perspective est pour vous stimulante, sachant que, il faut quand même qu'on en parle, beaucoup de penseurs de la vitesse, on a parlé de Virilio, d'Ellul, ont du mal à répondre à la question qu'est-ce qu'on fait contre, comment on résiste. Et il y a notamment un côté un peu apocalyptique, catastrophiste, chez beaucoup de penseurs, qu'on retrouve un peu chez Rosa, je ne sais pas. Nous avons même un auditeur qui, à la dernière émission, nous avons parlé de Virilio, je crois que c'était il y a près de 2 ans, nous a envoyé un texte passionnant, il s'appelle Jean Jacob, qu'il avait fait paraître dans Le Monde Libertaire. Il disait, c'est quand même terrible ce cycle, cette tendance catastrophiste religieuse qu'il y a dans toutes les théories de la vitesse. C'est pas du tout ce que dit Jérôme Lèbre. Lui, il trouve une résistance politique par la spatialisation. Vous évoquiez Rancière, Anne Kupiec. C'est une vision qui vous intéresse et qui est neuve.
Bien sûr que la question m'intéresse, comme elle intéresserait chacun et chacune d'entre nous, puisque c'est le temps et l'espace que nous habitons. Mais une fois encore, il me semble que l'immobilité déclinée de multiples façons peut être une réponse à un présentisme oppressant, contraignant, aliénant. Une immobilité qui, une fois encore, peut être appréciée et vécue de diverses manières. Mais il me semble aussi que on peut envisager un mouvement dans l'espace qui engendrerait un autre rapport au temps. Et là, c'est bien sûr la figure du flâneur baudelairien qui me vient à l'esprit. Ou bien la dérive situationniste qui me viendrait aussi à l'esprit.
Et on est loin, en effet, du créneau apocalyptique, pour parler comme notre auditeur, qui caractérise beaucoup de théoriciens de la vitesse.
Je ne vois aucune apocalypse dans notre rapport au temps et à l'espace. L'apocalypse pourrait venir d'une planète en surchauffe qui nous empêcherait de vivre normalement. Mais notre rapport au temps, notre rapport, le cas échéant, articulé à l'espace, le rapport espace-temps étant quand même quelque chose qui a conduit à la réflexion des êtres humains depuis des siècles. Il me semble que nos ressources humaines sont suffisantes pour faire face par la résistance à l'accélération et au présentisme.
Et vous pensez que Rosa, dans ses derniers livres, ne prend justement pas ce chemin, lui qui vient d'écrire des choses, notamment son dernier livre s'appelle « Pourquoi la démocratie a besoin de la religion ». Il cherche une ressource ailleurs. C'est pas tout à fait neuf, là encore. Je viens de dire que beaucoup l'ont fait avant, les penseurs de la vitesse. Et vous dites, il y a d'autres chemins.
Il y a d'autres chemins. Simplement, le chemin classique, j'allais dire, que les êtres humains connaissent depuis des siècles, celui de l'expérience partagée. Ce sur quoi, et il est dommage quand même que Hartmut Rosa, qui est allemand, se revendique de la théorie critique, n'ait pas repris cette notion de l'expérience en tant qu'Erfahrung, c'est-à-dire une expérience partagé entre les êtres humains. Et cette expérience que nous pourrions davantage partager si nous résistions au présentisme et à l'accélération nous permettrait, j'en suis absolument convaincue, de trouver des chemins autres pour une vie qui soit pas simplement bonne, comme le dit Rosa, mais qui soit juste.
Vous êtes d'accord, Jérôme Lèbre? Oui. Avec cette perspective critique également de Rosa, alors même que Hartmut Rosa se situe dans ce qu'on appelle la théorie critique. Là, Anne Kupiec vient de le prendre en flagrant délit d'insuffisance critique.
Oui, d'ailleurs, le sous-titre français parle de critique sociale du temps, alors que le sous-titre allemand dit simplement « changement des formes structurelles du temps dans la modernité ». Le terme « critique sociale » est absent. Et de fait, je ne trouve pas vraiment qu'il y ait une critique du temps chez Rosa, puisque de toute façon, il se place immédiatement dans une mesure du temps. C'est-à-dire, quand il parle d'accélération, que ce soit technique, rythme de vie ou changements sociaux, c'est à chaque fois unité de kilomètres parcourus ou d'épisodes ou de changements sociaux par unité de temps. C'est-à-dire qu'il se met immédiatement dans un temps quantifiable. Se mettant dans un temps quantifiable, il se met dans un temps aliéné. C'est-à-dire, c'est cet ouvrage, il n'est pas dans une critique de l'aliénation, ou pas encore, parce que sa sociologie elle-même est entièrement sous la coupe d'un temps déjà aliéné, c'est-à-dire déjà mesuré.
Donc il n'y a plus de chemin.
Voilà.
Autre que d'autres des ressources extérieures, l'apocalypse elle-même pour d'autres auteurs, ou la recherche d'une spiritualité, comme on dit parfois aujourd'hui. Alors maintenant, je vais vous faire entendre, mais c'est vous qui nous avez donné l'idée, je reconnais Jérôme Lem. Je vais vous faire entendre Georges Perec, qui raconte un moment où il ne fait rien, justement. Une espèce de présent qui s'allonge. Et je vais vous demander si vous trouvez ça fécond ou aliénant. Écoutez.
La date, 19 octobre 1974. L'heure, 14h. Le lieu, Tabac Saint-Sulpice. Passage de Paul Virilio. Il va voir Gatsby le dégueulasse au Bonaparte. Je suis assis ici, sans écrire, depuis 1h moins le quart. J'ai mangé un sandwich au saucisson en buvant un ballon de Bourgueil. Puis des cafés. À côté de moi, une demi-douzaine de marchands de prêt-à-porter jacassent, satisfaits de leurs petites affaires. Je regarde d'un œil torve le passage des oiseaux, des êtres et des véhicules. Le café est bondé. Une lointaine connaissance, amie d'amis, amie d'amis d'amis, est passée dans la rue, est venue me dire bonjour, a pris un café. Passe un quart Paris Vision. Les touristes ont des écouteurs. Le ciel est gris, éclairci éphémère. Lassitude de la vision. Hantise des deux chevaux vers pomme. Curiosité inassouvie. Ce que je suis venu chercher. Le souvenir qui flotte dans ce café.
Georges Perec, tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Texte paru chez Christian Bourgeois en 1975 et lu ici par Antoine Ravon. Jérôme Lem, pourquoi nous avez-vous suggéré ce texte ?
Eh bien, je voulais justement une expérience d'immobilité qui me semble très différente finalement de la voie qu'a choisie Rosa, parce que à la fin de l'accélération, il est très pessimiste, puis finalement, il cherche une voie de sortie, et après, donc, c'est ce livre sur la résonance. Et cette résonance, on perd un petit peu la notion de même de temporalité, d'accélération, etc. C'est censé voilà nous redonner, c'est dans une sociologie de la relation, une nouvelle relation au monde. J'ai trouvé cette solution, bon, d'une part très individuelle, parce que pour lui, la résonance n'implique pas de collectivité, n'implique surtout pas de lutte. Si on lutte, on ne résonne plus, donc il n'y a plus de lutte sociale, il n'y a plus de politique. Et très lyrique. Ce qui me gêne énormément, parce qu'à mon avis, il y a une énorme réflexion depuis Adorno, mais c'est aussi Paul Celan, ou en France, c'est la Coulabarthe, ou c'est Derrida qui a écrit le plus grand livre sur la résonance qui s'appelle Glas, et qui n'est pas cité par Rosa. Donc toute une réflexion sur le fait que le lyrisme, l'harmonie avec le monde, c'est bien beau, mais en gros, c'est quand même un petit peu ça qui a mené au nazisme, et ça concorde très bien avec une harmonie politique. Ce que dit aussi Rosa, hein, qu'il y a une fausse résonance d'écho qui peut être nationale.
La résonance est un concept, en effet, qu'il a développé après accélération. Alors moi, je vais vous dire quelque chose sur le texte de Perec qui me chatouille. C'est que, voilà, il ne fait rien, il voit les gens passer, là, le présent se décontracte, si je puis dire. Rosa dit que le présent est contracté, là, ça se décontracte, ça devient lâche. Et soudain, il dit, c'était le dernier mot de l'extrait, le souvenir flotte dans ce café. Il dit même que c'est ce qu'il est venu chercher. Oui. Autrement dit, quand le présent se relâche, ce qui revient, c'est le passé. Anne Kupiec, vous êtes d'accord ? C'est le passé. Et est-ce que c'est bien que ce soit le passé ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne chose pour l'avenir que ce soit le passé qui revienne dans un présent enfin disponible ?
Je dirais oui, dans la mesure où nous ne sommes tous êtres humains, composés effectivement d'un présent que nous vivons, mais aussi habités par un passé que nous avons nous-mêmes vécu, ou que nos aïeux, familiaux ou non, ont également vécu. Et que nous sommes, de mon point de vue, enrichis par ce passé qui est fait de représentations, d'interprétations, mais qui nous enrichit et qui nous permet aussi de nous projeter dans un avenir. Nous sommes plus richement composés par le passé, le présent, mais aussi par ce que nous projetons, par les souhaits, le désir que nous pouvons avoir. Et ce qui m'a un peu laissé sur ma faim dans le texte de Pérec, c'est que souvent Pérec, quand il présente ce qu'il voit, il a aussitôt, et c'est parfaitement dit dans Je me souviens, plein de choses qui lui reviennent du passé. Et là, l'extrait s'arrête.
Ouais, s'arrête comme ça sur ce suspens. Vous voulez ajouter en quelques secondes votre ultime commentaire à celui d'Anne Cupiec, Jérôme Lèvre ?
Oui, en fait, le fait même qu'il y a un côté déceptif dans ce texte, je pense, fait partie de ce que veut Pérec, parce que justement, on est au-delà du lyrisme. Donc voilà, on n'est pas du tout dans la résonance. Et en effet, le souvenir vient sans revenir, mais là, j'ai rien à rajouter. Elle l'a dit très bien, mieux que moi, que je pourrais le faire.
On sait que tu vas vite, Gérard Manset, 1975. Très bon choix. Merci Nicolas Berger pour cette proposition de chanson après une réflexion sur la vitesse et sur la contraction du présent et la tyrannie du présent à notre époque. Anne Cupiec, Jérôme Lèbre, merci. Les références de vos travaux sont sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter Frédéric Worms qui cette semaine réfléchit au jeu, J-E-U-X. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi tous les jeux ont-ils des règles ? Parmi les choses qui nous surprennent lorsque nous observons des adultes ou des enfants en train de jouer, en train de se livrer à cette étrange activité que nous appelons le jeu, une des choses qui nous surprennent, donc, ce n'est pas seulement cette forme de sérieux du jeu qui est à la fois dans la vie et à côté de la vie, tout aussi sérieux qu'une activité vitale, mais sans l'urgence immédiate du danger mortel. Une des choses qui nous surprennent, donc, et qui doivent nous faire réfléchir, car il y a là peut-être quelque chose de l'essence du jeu et de l'essence du jeu dans la vie humaine en général, c'est que le jeu comporte des règles. Oui, même chez l'enfant isolé qui joue au jeu de la pelote, il lance une balle, il la reprend, et peu à peu, cela devient une règle, de telle sorte qu'il dit « Ah, j'ai raté mon coup !» Et donc, il y a une norme immanente du jeu. La règle, c'est aussi ce qui s'impose, qui fait, nous permet de dire qu'on a bien ou mal joué, qu'on a réussi ou raté un jeu. Or, il n'y a pas de jeu sans cette normativité, sans ce but, et cette règle qui est aussi parfois très stricte et qui s'impose aux joueurs, évidemment, que l'on doit respecter. Les psychologues et les sociologues ont observé que si vous mettez des enfants entre eux, ils vont non seulement se mettre à jouer, mais ils vont se mettre à inventer des règles et des règles qui vont être imposées finalement de telle sorte que, eh bien oui, il faudra peut-être un arbitre, il faudra une manière de respecter et de sanctionner la transgression de la règle. Alors on a tout de suite le sentiment que le jeu qui joue aussi avec le réel de la vie humaine, avec la mort, avec la séparation, joue aussi avec une dimension fondamentale de la vie collective, un danger mortel tout à fait singulier et central, qui est le conflit entre les humains et au fond la guerre. Et la règle du jeu est une façon évidemment d'éviter la guerre. Mais comment le fait-elle? Est-ce que c'est seulement par l'interdit en tant que tel, par un apprentissage de la limite et de l'interdit dans sa dimension immédiatement vitale ou mortelle? C'est sans doute le cas, de telle sorte que, par exemple, Michel Serres disait que le jeu est une façon de ritualiser la violence, que le sport, par exemple les sports collectifs, le rugby, la boxe, tous ces sports qui sont aussi dans les jeux dits olympiques sont une manière d'éviter le conflit brutal, la violence brute entre les humains. Mais ce n'est pas la seule façon dont le jeu a besoin de règles ou dans le jeu, la façon dont le jeu évite la guerre entre les humains. Ce que nous apprend aussi toujours Donald Winnicott dans Jeu et réalité, c'est que la règle, ça n'est pas seulement l'interdit. La règle, c'est aussi le cadre. La règle, c'est ce qui permet aux humains de dessiner l'espace de jeu. La règle, c'est la limite du terrain. C'est la limite aussi des actes, mais c'est la limite aussi spatiale de ce qui permet aux humains de coexister dans un espace délimité, qui n'est pas l'espace de la vie avec ses urgences, qui n'est pas l'espace de la guerre, l'espace des pompiers, l'espace du feu, l'espace des sirènes, sauf quand on joue avec le feu, et justement, là, c'est qu'on transgresse la limite. Mais c'est un espace, au fond, protégé. Un espace protégé où peuvent s'exprimer les humains dans toutes leurs dimensions, avec leur corps, avec leur force, avec aussi leur rivalité ritualisée. La règle, ça n'est donc pas seulement l'interdit. La règle, c'est aussi le cadre, c'est aussi la forme. Le jeu sécrète donc naturellement la règle, non seulement comme un interdit pour ne pas entrer dans la violence, mais aussi comme un cadre pour permettre la liberté.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Félix Delacour. Elle a été préparée en particulier par Philippine de Bellois et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Carla Michel, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!